Salut, c'est Champ Libre. Bonsoir à tous et à toutes. Champ Libre numéro 530, deuxième Champ Libre de cette rentrée radiophonique. Et troisième mercredi du mois oblige, le Champ Libre avec des invités. Donc avec moi autour de la table, Miss Carole.
Bonsoir.
Qui nous parlera, je pense, non j'en suis sûr, d'un album sorti
des chances,
récemment. Attends, je suis perspicace parfois. Joe qui va nous parler de Cinoche.
Bonsoir.
Cinéma.
Oh oui, absolument.
Et puis le petit nouveau de l'année, Damien.
Bonsoir.
Salut Damien.
Merci.
Qui lui va au fil des mois nous faire découvrir les différents courants d'une musique qui s'appelle métal, qu'on passe parfois dans cette émission, mais pas suffisamment. Pour des raisons très simples, Carole est trop vieille pour ça, et moi je suis trop occupé par ailleurs. Voilà, Laurent est à la technique comme d'habitude.
J'ai les oreilles qui saignent.
Voilà, et on va commencer par une nouveauté. Alors, j'ai pas écouté la totalité de l'album, j'ai jeté une oreille, disons, peu attentive. Je vais vous faire écouter un titre du nouvel album du groupe Alt-J, c'est leur deuxième disque. Le premier était pas mal, celui-ci est étonnant, extrêmement diversifié. Ils ne sont pas contentés de refaire la même chose qu'on aurait pu
redouter. Pour quelqu'un qui a écouté ça d'une oreille distraite, tu as pu analyser
oui.
La
chose. Ce que j'appelle une oreille distraite, Carole, c'est j'écoute ça dans le bus en somnolant. Voilà, c'est pas une étude avec prise de notes.
Donc tu prends le bus.
Voilà, avec prise de notes, toi.
Ok.
Voilà. Donc on écoute Alt-J, le premier titre.
Sur la semaine prochaine, hein, entre parenthèses.
S'appelle Left Hand Free. Et l'album s'appelle comment, Carole?
This is all yours.
Hey, shady baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battle, leeny, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one.
Thank you.
the prodigal son. Pick up at the leeny, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one.
Jo,
oui,
présent. Tu veux nous parler ce mois-ci de films récents,
de films récents, enfin surtout qui sont déjà sortis au cinéma en juin, donc dont je n'ai pas eu l'occasion de parler cet été et qui vont bientôt sortir en DVD. Donc c'est l'occasion de les découvrir, de les redécouvrir. Donc un film français, un film anglais, en l'occurrence, respectivement, Bird People de Pascal Ferrand et Under the Skin de Jonathan Glazer. Donc, Bird People, pour commencer. Sorti au cinéma le 4 juin. Donc, Pascal Ferrand, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle tourne peu, mais bien. Donc, 8 ans après son dernier film, qui était Lady Chatterley, qui a eu d'ailleurs le César du meilleur film. Elle nous revient là avec un conte profond, tendre, qui se déroule dans le microcosme déroutant de l'aéroport de Roissy. Donc, mise en scène de deux personnages. Hein. Le premier, Gary, qui est un jeune cadre sup-américain, en transit entre New York, Dubaï, working man, perché en haute altitude, et qui connaît une dépressurisation personnelle, et qui décide de tout plaquer du jour au lendemain, famille, boulot. Donc, Gary, à la recherche de lui-même, fait la navette entre sa chambre d'hôtel et l'aéroport. Et c'est dans cette chambre d'hôtel, justement, que travaille Audrey, une jeune étudiante qui paye ses études à refaire les chambres. Elle passe et repasse, témoin de morceaux de vie des voyageurs de passage. Mais elle aussi désire voir plus loin, quitte à s'envoler pour de bon, au sens propre comme au figuré. Donc, comme tout film de Pascal Ferrand, c'est une superbe réflexion sur l'aliénation de l'existence. C'était déjà le cas pour Lady Chatterley, hein. Sur l'aliénation de l'existence et les besoins de s'affranchir des contraintes du quotidien. Et je trouve que Bird People est une œuvre fraîche, pleine de vie, sensitive, naviguant parfois vers les confins du fantastique, notamment lors de la dernière partie du film, où l'on pénètre dans le domaine de la fable au son du fameux Space Oddity de David Bowie. Une scène très audacieuse, planante et étonnante. Et moi, je trouve que c'est une expérience aérienne et superbe et à découvrir de toute urgence. Donc, la sortie DVD a lieu le 22 octobre. À découvrir. Absolument.
Vous l'avez vu, Carole ?
Non.
Damien, non plus ?
Non plus.
Alors, le problème, c'est que c'est un film qui a été très peu diffusé.
C'est
hein,
pour
donc,
ça.
Oui. Pascal Ferrand...
C'est étonnant. Il a cartonné l'avant-dernier, donc...
Non, c'est resté quand même...
Le Châtelet, c'est...
Ouais, c'est resté quand même intimiste, en disant qu'il a été couvert de prix, le prix Louis Deluc,
qui est une sorte de concours. J'ai l'impression que
Non, il a eu...
Vendu...
Non, il a eu le prix Goncourt, enfin, une sorte de prix Goncourt du cinéma, c'est-à-dire le prix Louis Deluc, qui récompense quand même le meilleur film français. Il a eu le César du meilleur film, et bon, après, il n'a pas ramené tant de spectateurs que ça. C'est vrai que Pascal Ferrand s'est fait discrète hein, ces dernières années. Et là, bon, elle a tourné ce film qui était attendu, mais bizarrement, qui n'a pas été en sélection officielle à Cannes, qui était dans une sélection intermédiaire. Alors, c'était peut-être Un certain regard ou La quinzaine des réalisateurs, je ne sais plus. Et du coup, le film est vraiment passé inaperçu. Il est sorti sans véritable publicité. Je pense qu'il y a dû avoir deux, trois articles comme ça, télévisuels, sur les chaînes publiques, France Télévisions, je crois.
J'ai lu de bonnes critiques dans
très
des
bonnes
revues comme Les Un Rock, dans Libé.
Ah oui. Mais le film, après, a eu de très bonnes critiques. Hein, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet assez particulier, notamment le traitement du sujet. Et puis bon, sur le... L'aéroport de Roissy, peut-être que le public en masse n'a peut-être pas envie de voir ça, hein, ce qui est totalement...
Tu penses à la grève des pilotes
Non, mais en tout cas, voilà, c'est un film vraiment qu'il faut voir, et justement par la dimension, sans mauvais jeu de mots, la dimension aérienne du film qui est vraiment... Le film est vraiment planant et super intéressant à voir, assez original pour le coup.
Ok, et le tu as un deuxième film sous le coude.
Ah oui, alors deuxième film totalement...
C'est le film français.
Alors ça, c'est le film français.
Le titre.
Alors c'est Bird People, qui est un titre anglais, un film français, mais qui met en scène un personnage américain. Donc voilà.
D'accord. Voilà. Donc on parle.
Et du coup, le deuxième, c'est plus particulier. C'est un film anglais, écossais, précisément, de Jonathan Glazer.
Attention.
Attention, oui, oui, en ce moment.
Même avant, mais bon.
Déjà avant, oui. Donc non, Under the Skin qui est sorti au cinéma le 25 juin. Alors Jonathan Glazer, c'est un peu le... Je prends les cinéastes rares là, en ce moment, hein, parce que Jonathan Glazer, c'est le même problème que Pascal Ferrand. C'est-à-dire que son dernier film date de 2004. C'était Birth, l'excellent film avec Nicole Kidman. Et celui-ci, c'est son troisième long métrage. Et on peut vraiment le définir comme un objet filmique non identifié. Un petit ovni, en fait. Donc le petit pitch, rapidement, j'essaie. Une femme nue en dépouille une autre de ses vêtements. Elle ratisse les recoins sombres de l'Écosse au volant de sa fourgonnette. Elle aborde les jeunes Écossais, les séduit et les fait disparaître. Comme ça, les uns après les autres. Donc, bon, il y a de quoi succomber au charme de la mystérieuse créature. Celle-ci a quand même les traits de Scarlett Johansson.
Ça aide.
Ça aide grandement. Mais bon, elle n'est pas humaine. Donc, elle n'est pas humaine.
Ça marche moins bien avec Balasco, quand même.
Forcément, Balasco, ça passerait moins. On ne monte pas dans la fourgonnette, là. Voilà. Donc, personne ne sait, on ne sait pas pourquoi elle est là. Voilà.
Atterré par le niveau de cette émission.
Pardon.
Non, mais il n'y a pas de souci.
Ressaisis-toi.
Oui, mais bon, voilà, on ne sait pas pourquoi elle est là, pourquoi elle est pure à ce moment-là, c'est conquête masculine, pourquoi une telle épuration, personne ne le saura jamais. Cette part de mystère est la grande force du film, justement, car peu à peu, au contact de ces sujets expérimentaux, les petits humains, l'entité s'humanise malgré elle, s'interroge sur cette espèce capable de sentiments et de désirs. Donc, il faut le dire tout de suite, hein, c'est un film très étrange, n'est-ce pas, Damien ?
Ouais, je confirme.
Voilà, donc c'est un film très étrange mais fascinant. Donc c'est un film influencé de l'aveu du réalisateur par 2001, l'Odyssée de l'espace. Et Under the Skin, je trouve, est aussi la révélation du contre-emploi génial de Scarlett Johansson, qui est, pour une fois, je dirais, à des années-lumière de l'image du sex-symbole qu'on a l'habitude de voir habituellement. Brune livide, grossièrement maquillée, totalement désincarnée, dévoilant une enveloppe vide, se dotant progressivement de vie. L'actrice, je trouve, est juste exceptionnelle. Et pour moi, c'est son meilleur rôle à l'heure actuelle. Donc jamais le spectateur n'a une quelconque explication de la raison de cette intrusion. La mise en scène est implacable. Le travail sur le son et la musique de Mika Levy, très métallique, est impressionnante. Et participe à ce malaise ambiant et permanent. Moi, j'ai juste un souhait à émettre, pourvu que Jonathan Glazer n'attende pas 10 ans pour refaire un film, parce que c'est un univers très intéressant. Alors, pour info, sortie DVD le 29 octobre, donc une semaine après Bird People.
Donc, on a le temps de regarder le premier.
On a le temps de regarder le premier, ou alors de se faire un petit budget pour acheter les deux en même temps.
Et tous ces DVD, on les trouve dans la région sans trop de difficultés. Sans trop. Il y a des mecs qui s'occupent du rayon DVD.
Absolument et brillamment. Brillamment.
Voilà, on n'a pas le droit de faire de la pub.
Non, du tout, jamais.
Donc, on ne le dira pas.
Cette idée, voilà, absolument. Voilà. Donc voilà, Under the Skin et Bird People. Très très, très très bonne découverte et à redécouvrir à nouveau ou à découvrir véritablement.
Merci pour ces deux futures nouveautés en DVD.
Avec plaisir.
Il y a des choses qui sont sorties récemment en DVD. On parlait de Wes Anderson tout à l'heure.
Alors oui, bien sûr, Grand Budapest Hotel que j'ai chroniqué ici même. Grand Budapest Hotel qui sort en DVD.
Oui, mais
il existe aussi un coffret à sortir, de 8 films de l'intégralité de Wes Anderson, absolument, notamment les deux inédits, enfin pas les deux inédits, puisqu'ils ont existé en DVD, mais de Bottle Rocket et Rushmore, qui sont très compliqués à voir aujourd'hui, à avoir déjà en DVD, on peut les voir, mais de manière différente.
Ouais. Voilà, donc ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas rater.
Absolument pas.
On va faire une petite pause musicale, c'est comme ça qu'on dit dans les émissions sérieuses, avec un titre du nouvel album de M. Christopher Owen. Alors, je crois que c'est son deuxième album solo, mais ce monsieur jouait dans un groupe qui s'appelait Girls. C'était des garçons, mais le groupe s'appelait Girls. Et c'est plutôt intéressant, il fait une musique rock vaguement rétro, et dans chaque morceau de l'album, il passe d'un style... un autre rockab, etc. L'album s'appelle le New Testament et le titre que je vous propose, Carole, s'appelle
Ah oui, c'est à moi que tu...
Oui, bah, c'est pour voir si tu suis...
Nothing more than everything to me. Je ne savais pas que tu apprécies autant mon accent.
Mais... Christopher Owen. Christopher Owen, nouvel album, A New Testament, deuxième séquence de ce chant libre sur les ondes de Couleur FM, chant libre mensuel. On a parlé de cinéma, on va parler de musique avec Carole.
Et du moins, on va essayer.
Oui, c'est vraiment de musique.
Bon. Il paraît. Que s'est-il passé cet été, comme tous les étés, pas grand-chose. Sauf que fin août sortait le dernier album de Sinead O'Connor. La boss de la pop présente son 10e album, qui devait s'intituler sobrement Vishnu Room. Au lieu de ça, une campagne féministe a déjoué le plan com, et l'album porte le nom de I'm Not Bossy, I'm the Boss, traduisé. Je ne suis pas autoritaire, je suis le patron, avec ou sans biroute, je dirige. Histoire de soutenir les ban bossy, celles qui en ont assez d'être comparées à une mère Thatcher, dès qu'elles ont un poste à responsabilité. La pochette de l'album peut faire peur, mais elle se veut ironique. L'on y voit Sinead avec 30 kilos de moins, toute de latex vêtue et perruquée au carré. Perso, j'ai surtout eu peur. La démarche engagée s'arrête là, puisqu'il s'agit avant tout d'un album très pop, rempli de love songs. Les 12 titres qui composent cet opus traitent tour à tour d'espoir, d'amour perdu ou retrouvé. L'artiste ne prend aucun risque et cherche à faire un retour commercial comparable à celui de Boy George, autant au niveau de l'image que du son. Les titres, pour la plupart, n'excèdent pas les 3 minutes 30 et ne mettent que trop rarement en valeur le potentiel vocal de Sinead. Ce 10e album, annoncé comme étant un retour aux sources, puisque l'équipe de I Do Not Want a participé à la réalisation, est une fausse promesse car l'émotion n'est pas au rendez-vous. Sinead se dédie cet album car elle exorcise ses démons, évoquant l'amour sous toutes ses formes et se montrant féminine comme au temps jadis. Le discours est parfaitement intégré au plan marketing et joue sur la corde du phénix qui renaît de ses cendres, sauf que notre aéré chaud grand cœur n'a jamais eu recours à ce genre de manœuvre pour promouvoir une sortie d'album. Donc à trop vouloir être populaire, on risque de perdre la sincérité qui nous rend rares et singuliers. I'm Not a Bossy n'en reste pas moins un bon album, très pop, avec quelques notes rock voire bluesy, ce qui était le cas sur des albums précédents. On peut noter quelques bons titres comme How About I Be Me, c'est le titre du précédent album, histoire de faire un petit raccord. Vishnu Room, qui aurait dû être le titre de l'album, Harbour, et How Nice A Woman Can Be, qui est dispo sur l'édition de luxe. Le single choisi pour annoncer l'arrivée de ce dernier opus est le punchy Take Me To Church. Et ce n'est certainement pas un hasard, puisque c'est une chanson de rédemption dans laquelle Sinead clame haut et fort qu'elle ne veut plus se morfondre et préfère chanter la beauté, l'amour, la joie et qu'elle reste désormais la boss. Longue vie à toi, Sinead O'Connor. On écoute tout de suite Take Me to Church.
Singing love songs for, I don't wanna sing them anymore. I don't wanna be that girl no more. I don't wanna cry no more. I don't wanna die no more. So cut me down from this here tree. Cut the rope from off of me. Set me on the floor. I'm the only one I should adore. Love's the only love you shouldn't fight. Songs of longings but fulfilled. Songs that won't let you sit still. Songs that mend your broken bones and don't leave you alone. So get me down from this here tree. Take the rug from off of me. Set me on the floor. I'm the only one I should adore.
Sinead O'Connor.
Take Me to Church. Premier extrait de I'm
c'est,
Not
c'est un single, il est pas, single. C'est pas dans l'album, sauf dans l'album de luxe.
Sinon, non, celui-ci, il est dans l'album. Take Me to Church. C'est le deuxième. C'est, voilà, c'est le single qui du coup a lancé la sortie de l'album.
Je rembobine. Moi, ce qui m'intrigue au début, on parlera de l'album et de Sinead après. Ce qui m'a intrigué, c'est cette histoire à Mbossi. Alors, je sais qu'il y a une campagne féministe qui.
Oui, qui a eu lieu aux États-Unis.
Qui voudrait que l'on bannisse le terme bossy. Mm. C'est un terme qui est utilisé aux États-Unis lorsqu'on parle d'une femme qui a des responsabilités, voilà. Au lieu de dire c'est le chef ou le responsable.
Mais c'est très ironique parce qu'elle est bossy, parce que du coup, il y a toujours le côté acariâtre qui vient derrière, genre la petite cheftaine. C'est pour ça que j'ai fait un parallèle avec Margaret Thatcher. Parce que du coup, moi, quand j'ai lu les articles concernant ce mouvement-là, j'ai eu tout de suite l'image d'une Margaret Thatcher, voilà, hyper, enfin pas glamour du tout, hyper chiante et du coup très rigide. Et dès qu'une femme aux États-Unis a un poste à responsabilité, en gros, elle a cette image-là. Et donc c'est plus dégradant qu'autre chose, parce qu'au final, mm-hmm. on peut très bien être une femme et avoir.
Ouais, il faut toujours qu'elle soit un peu en masse pour que.
Voilà. Et limite, elle doit s'excuser d'avoir des responsabilités.
La campagne, c'est une campagne qui a été lancée par une leader féministe américaine. Ils en ont. Qui s'appelle Sheryl Sandberg. C'est donc un mouvement qui existe depuis quelque temps. Effectivement, dans la presse, on pose des questions à Sinead O'Connor. On lui dit, est-ce que vous soutenez cette campagne? Elle dit, je ne suis pas au courant, je ne suis pas féministe, je n'appartiens pas à ce mouvement-là, mais je me reconnais dans la chose parce que depuis l'origine, je refuse que l'industrie du disque utilise mon image.
Oui, après, à côté de ça, ça a été aussi suivi par beaucoup de people, entre ouais. guillemets. Donc, il y a un côté très marketing à ça. Donc, c'est pour ça que moi,
alors, il faut dire que... La...
Ouais. Bon, parce que moi, j'aurais été curieuse. J'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné s'il n'y avait pas eu cette campagne qui aurait court-circuité justement la sortie de l'album. J'aurais aimé savoir ce qu'elle aurait mis en couverture. Sur un album qui se titre Vishnu Room, parce qu'il y a un côté spirituel que Sinead O'Connor a toujours eu dans tous ses albums.
Mais l'album,
et là, du coup, pouf, ça a tout court-circuité et on a un côté plus...
L'album ne serait pas vendu.
Est-ce qu'il se vend plus maintenant? Je ne sais pas. Moi, après,
ah oui, moi, je pense que... Tu disais, ça fait peur. Moi, je pense que
parce
non.
que moi, j'ai toujours aimé... c'est une artiste que je respecte énormément.
Je pense
toujours
que non.
Il y a
le, attendez, bon, ce n'est pas très radiophonique ce qu'on va faire. Ouais, je vais montrer la pochette. Elle a une perruque. C'est une belle brune maquillée, sapée en cuir et tout. Il y a tous les fantasmes rock'n'roll.
Bien sûr, bien sûr. Mais moi, ça m'a fait penser au retour de Boy George.
Elle va en vendre.
Parce que je suis désolée, Sinead O'Connor, il y a... Enfin, la dernière fois qu'elle a sorti un album, il y a peut-être 3 ans, je crois, 2-3 ans, elle n'était pas du tout dans ce trip-là, glamour et tout, mais à côté de ça, elle avait une aura qui elle a perdue. Pour moi, elle a perdu cette aura-là en trop vouloir être physiquement abordable et juste en le vendre au marketing et image. Quoi.
Est-ce que c'est au second degré? Parce que lorsqu'on lui pose la question, elle dit « je le savais ».
Oui, oui, bah, elle le revendique, c'est pour ça que ça fait partie du plan com, c'est revendiqué tel que... Mais en attendant, moi, je n'ai pas reconnu l'artiste que j'aime depuis des années et des années, je ne l'ai pas reconnu sur cette pochette-là, quoi. Mm-hmm. Parce que, n'empêche, une pochette, tu vends beaucoup de choses, tu vends l'image, tu vends l'esprit, tu vends l'artiste, donc c'est une nana qui a toujours été hyper intègre, et c'est pour ça que je l'aime aussi. Et sur cette pochette-là, sur cette com-là, j'ai pas du tout retrouvé. Même tu regardes le clip, je sais que t'avais pas clip du tout, mais tu regardes le clip de Take Me to Church sur YouTube, c'est une horreur ce truc. Enfin, franchement, c'est pas digne de.
Donc,
on a
compris, Carole, tu aimes beaucoup Sinead O'Connor. Bon, le disque, il est pas mauvais.
Non, le disque est bon. Elle en a fait des meilleurs.
Alors, moi, je en une phrase. Sinead O'Connor, je connais le truc qu'elle avait fait il y a très longtemps, le tube.
Nothing Compares to You, comme
tout le monde. Je me souviens de Sinead O'Connor qui s'est fait siffler lors de la soirée anniversaire de Bob Dylan, parce qu'elle avait
déchiré la photo du pape.
C'est là que j'ai découvert qu'on peut être fan de Bob Dylan, de Neil Young, etc., et être un con.
Pourquoi être un con?
Bah parce qu'ils l'ont sifflé.
Ah,
parce
d'accord,
qu'il avait ils l'ont empêché de chanter.
Bien sûr.
Donc voilà, donc moi je me souviens de ça. Et puis après, je me souviens de quelqu'un qui. Bon, il y a pas mal de polémiques autour de Sinead O'Connor. Elle se frite pas mal avec Miley Cyrus.
C'est une merdeuse qui va durer 2 ans. Enfin, voilà. Franchement, c'est...
J'ai entendu. Et puis, alors, la chose que j'ai en tête, c'est effectivement le côté spirituel, crâne rasé, que je sens, que moi, je trouve lourd et pesant, etc. Alors, je reconnais ne pas avoir écouté les albums à cause de cette image.
Ouais.
Grâce à cette pochette, je crois avoir écouté l'album.
Après, d'accord, je pense qu'il faut avoir une vue d'ensemble. C'est quelqu'un qui a eu des albums. Elle a sorti Theology juste avant l'avant-dernier, How Be Me. Et c'était un album, effectivement, qui peut paraître un peu psyché pour certains, parce que ça appelle à la religion ou autre. Mais après, il n'y a pas forcément... Ce n'est pas un endoctrinement, c'est juste... musicalement, c'est très beau. Et elle met en valeur sa voix. Elle a 2 versions sur cet album. C'est juste somptueux. Elle a sorti un album hommage au plus grand morceau de reggae. Cet album est juste une tuerie. Donc, elle arrive à faire des choses complètement diverses et variées, mais toujours avec autant de passion et en étant intègre. C'est pareil, elle avait sorti un album en gaélique. Bon, t'aimes ou pas le gaélique, mais en attendant, c'est quand même super... c'est intéressant.
Donc,
elle prend des risques.
On a compris, Carole aime Sinead O'Connor. On en parlera hors antenne. On va laisser quand même un peu de parole.
T'as dit 8 minutes, c'était pas suffisant.
À Damien et Jo... Tu as écouté l'album de Sinead O'Connor?
Non, j'avoue que je connais pas tellement Sinead O'Connor, juste de nom.
Alors on va se parler après.
Faut pas prendre de risque.
Oulala, Damien. Oulala.
Tu connais pas l'Irlande. Bon, faut pas prendre de risque. Jo.
Bah, moi, c'est vrai que je l'ai écouté plusieurs fois, en plus. J'ai beaucoup aimé les premiers albums de Sinead O'Connor. J'étais très fan étant plus jeune. Et c'est vrai que je l'ai abandonné depuis un sacré moment aussi par rapport aux albums qu'elle fait par la suite. Et là, j'ai trouvé que sur celui-ci, il y avait une pêche, une sincérité, vraiment. C'est un album pop, mais qui passait bien. Et voilà, donc moi, j'ai trouvé que c'était une sincérité qui était très bienvenue. Et j'ai beaucoup aimé cet album. Hein,
ouais, musicalement, je trouve que ça passe bien. J'aime beaucoup ce... Alors, peut-être que ça existait dans les albums précédents. C'est pas un gimmick, j'allais dire. Ce gimmick qui consiste à doubler la voix à chaque fois. Je trouve que ça... Elle a une voix qui se prête bien à ça. Du coup, ça sonne un peu comme les cornemuses...
Je te filerai la disco.
J'allais le.
Voilà.
Je veux bien te convertir. Voilà, donc nos auditeurs ont compris que l'album de Sinead O'Connor s'appelle I'm Bossy. I'm the Boss. Et que du coup, on va écouter
Un deuxième titre qui est disponible sur la version collector, parce que bien sûr, il y a deux versions, comme souvent, hein, et une version collector avec trois titres bonus. Et j'en ai sélectionné un qui, pour moi, reflétait vraiment ce que pouvait faire Sinead dans son plus grand moment. Donc ce titre, c'est How Nice a Woman Can Be.
Franchement, c'est un problème qu'elle soit avec une perruque et une jupe en cuir.
Peut-être parce que c'est l'image que je. Hé hey Sinead O'Connor, c'est le choix de Carole. Je vous le disais tout à l'heure lors de l'intro de ce Champ Libre, émission sur les ondes de Couleur FM. Chaque mois, Damien, notre nouvel invité,
de l'année viendra nous parler d'un style musical alors, qui tourne autour de tout ce qui est metal, hard rock.
Voilà, en gros, à chaque mois, il y aura un nouveau genre de metal que je vais aborder. Donc, les origines, ce qu'il définit.
Voilà. Et ce mois-ci, on a décidé de commencer par quelque chose auquel tu as participé au mois de juin, à savoir le fameux Hellfest.
Voilà, le Hellfest.
La grande messe des fans de cette musique-là. Et au Hellfest, cette année, il y avait un groupe, carrément une résurrection, c'était Black Sabbath. Et on ne résiste pas à un petit paranoïde. Je ne sais pas s'il faut désannoncer ce titre.
Black Sabbath ou Sabbath Blatt.
Black Sabbath, Paranoïde, qui tout donc ça. Était au Hellfest 2014 en juin cette année. Damien, le Hellfest, c'est un festival qui existe déjà depuis un bout de temps. Les origines du Hellfest, ça date de 2000.
Oui, ça s'appelait à l'époque le Fury Fest, si je me trompe.
Oui. Donc c'est un festival qui a lieu à Clisson, en Loire-Atlantique.
Oui, près de Nantes.
Voilà. Alors, ils ont une histoire un petit peu mouvementée, puisque, d'après ce que j'ai pu lire, ils ont été en dépôt de bilan plusieurs années, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à rentabiliser la chose. Et puis, il y a une deuxième association qui a été créée. Les organisateurs du début sont contentés de l'organisation et la production a été refilée à une grosse boîte qui a mis des sous, qui a perdu des sous les premières années. Aujourd'hui, c'est carrément un truc qui...
C'est le deuxième plus gros festival de France après les Vieilles Charrues.
Voilà, je crois qu'un des premiers festivals de métal en Europe.
Oui. Ouais.
Voilà. Combien de participants cette année
150 000 sur les 3 jours, il me semble.
Voilà, si on a offert des hectolitres de bière, ça.
Un truc là, ben, à peu près un litre de bière par jour et par personne.
Ouais, ben, il faut ça. Non, rien. Il faut ça, surtout qu'il y en a qui n'en boivent pas, donc ça en fait un peu plus pour les autres. Voilà, donc ce festival aujourd'hui est reconnu internationalement. Il paraît qu'il y a une étude sociologique qui a été faite sur le Hellfest. Tu te rends compte ?
Ça, j'étais pas au courant.
Les étudiants à qui on a demandé de faire une étude sociologique, d'où il ressort que c'était le Hellfest de 2011, que le public est constitué à 80% d'hommes, avec une moyenne d'âge de 26 ans, et un festivalier sur 3 a plus de 30 ans, et 7% plus de 41 ans. Voilà. 25% des festivaliers sont des cadres et professions libérales, titulaires d'un baccalauréat au supérieur, à savoir que le milieu populaire, chômeurs, peu diplômés, représente une infime minorité du festival. Ce festival est devenu, comment dire, raisonnable par rapport aux premières années. Alors, raisonnable, je mets des guillemets autour. Ouais. Il y a des groupes qui ne passeraient plus au Hellfest maintenant.
C'est vrai. Bah, ça reste quand même un bon tremplin pour des groupes qui sont connus, mais modérément.
Ouais. Il y a plusieurs scènes.
Voilà, il y en a 6. Donc, il y a les 2 main stage.
2 grandes scènes, oui.
Ensuite, pour la musique un peu plus extrême, il y a sous une grande tente, la... La Temple et Altar, donc pour les courants black et death du métal. Une tente qui s'appelle la Vallée, pour le métal un peu plus planant. Et la Warzone pour les groupes un peu plus punk.
Ok, et on arrive à se balader facilement. On rate des choses obligatoirement.
Forcément, il y a le principe du festival. Oui, il y a eu d'ailleurs un gros débat pour tous les fans de black metal. Deux groupes très connus qui passaient en même temps. Ils ont réussi à obtenir gain de cause et que les groupes soient changés d'horaire,
oui.
Mais forcément on loupe des groupes.
Et donc voilà, donc ce festival existe. Alors il y a eu des polémiques autour du festival, hein. Madame Poutin voulait le faire interdire, c'était un truc satanique.
Oh, c'est étonnant ça.
Voilà, enfin bon.
Au bûcher.
D'ailleurs, d'ailleurs on voit au Hellfest plusieurs fois des gens avec un t-shirt. J'ai vu Christine Boutin la buvette.
D'accord. Voilà. Moi, j'ai vu un reportage sur M6 il y a un an où on interrogeait des habitants du coin qui disaient que le sol tremblait pendant 3 jours, qu'ils ne pouvaient plus sortir, les enfants avaient peur. Enfin, voilà. C'était vraiment le truc terrible. Voilà. Alors que c'est très familial maintenant.
Et justement, hein, il y a eu, par rapport au reportage sur M6 à Zone Interdite, il y a eu un reportage assez parodique qui parlait du M-Fest. Un autre festival de métal en France, mais beaucoup moins connu, qu'on peut trouver, ça s'appelle Enquête Interdite, oui. Qu'on peut trouver sur YouTube, qui est très très drôle, qui parodie justement tous les clichés de Zone Interdite.
Du truc en question. En 2 minutes, qu'est-ce que tu as vu d'intéressant, pardon, qu'est-ce que tu as écouté d'intéressant cette année? Parce qu'il s'est beaucoup entraîné au pogo, mais il a des oreilles aussi, voilà. Donc, qu'est-ce que tu as écouté?
Alors, bah forcément, les têtes d'affiche, à savoir Iron Maiden pour le vendredi, Aerosmith pour le samedi, et on l'a écouté Black Sabbath pour le dimanche. Donc, le vendredi, je suis arrivé assez tard, donc j'ai loupé les petits groupes, mais j'ai quand même pu apprécier Rob Zombie. Donc, avec un show, dommage qu'il n'est pas assez spectaculaire à mon goût, sachant qu'il... Bah, des fois, il fait quand même des effets pyrotechniques, et là, ça n'a pas été possible. Mais excellente cette liste, des solos de batterie et de guitare, très appréciable. Iron Maiden, c'était le concert le plus important, beaucoup de monde. Le samedi, deux groupes de hard rock, Deep Purple et Statu Quo. Deep Purple assez décevant, Statu Quo très bien.
Ouais.
Et le dimanche, Powerwolf, un de mes groupes préférés, dont on va écouter un morceau après, et Black Sabbath. Alors,
un de mes groupes préférés. Donc.
Moi aussi. Donc, des instrumentaux parfaits. Donc, Tommy Clufetos, le remplaçant en tournée de Bill Ward.
Le batteur.
Tony Iommi, malade, mais qui sait toujours faire d'excellents solos de guitare. Et Geezer Butler, bassiste, excellent aussi.
Et Ozzy qui...
Ozzy, vieillissant Papy malheureusement.
Ozzy. Papy Ozzy qui a du mal.
Des fausses notes, certes, mais ça reste quand même... Un must du Hellfest. Et là, tout de suite, on va écouter un morceau de mon groupe préféré, Powerwolf. C'est assez spécial, c'est un genre qui s'appelle le Power Metal.
Ouais.
C'est un concert qui est passé en début d'après-midi, pas beaucoup de monde, mais une foule vraiment déchaînée. Et on écoute ça D'accord. tout de suite.
C'est un album de 2011, hein.
Voilà, c'est l'album qui a fait connaître le groupe, qui Blood s'appelle Blood of the Saints.
Voilà.
Et la chanson s'appelle We Drink Your Blood.
Powerwolf. Powerwolf.
Voilà, un groupe allemand.
Ça laisse tout quoi. On aime beaucoup le rock allemand dans Champs Libres, je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà, c'est à moi. Je vais terminer cette émission. Il y aura un petit titre musical après, mais je voudrais vous parler de deux bouquins que j'ai lus récemment, que j'attendais avec impatience. Le premier, c'est le nouveau dernier roman de M. Thomas Pynchon. Alors, ce n'est pas n'importe qui, Thomas Pynchon. C'est un des plus grands écrivains américains, à mon avis, de la Beat Generation. Il a presque 80 ans aujourd'hui. Lire un bouquin de Thomas Pynchon, c'est carrément une aventure. Parce que parfois, il faut prendre un dictionnaire et puis il ne faut pas hésiter à en faire marche arrière et repartir en avant. L'écriture est extrêmement spéciale. Donc voilà. Donc, avertissement au lecteur. Si vous êtes un petit lecteur, ce n'est pas pour vous. Si vous êtes un bon lecteur, dernier roman de Thomas Pynchon, il s'appelle Fond perdu. Ça raconte l'histoire, un petit pitch, ça raconte l'histoire d'une New-Yorkaise qui s'appelle Maxine. Elle était expert comptable, elle a été radiée du bureau, elle est devenue spécialiste de la répression des fraudes. Comme elle savait frauder, on l'a recrutée pour réprimer la fraude. Elle va se voir confier une enquête sur un homme puissant, une sorte de Bill Gates, qui s'appelle Gabriel Heiss, et qui ne semble pas avoir souffert de l'éclatement de la bulle Internet il y a quelques années. On est juste avant le 11 septembre. Ça se passe juste avant le 11 septembre, les événements du 11 septembre à New York. Donc ce mec-là semble ne pas avoir souffert et on pense qu'il y a quelque chose de bizarre. Donc pour mener l'enquête, elle va rencontrer ce qu'on appelle les nerds, c'est-à-dire des mecs, des fanatiques du web, qui vont lui faire découvrir que le web, c'est pas ce que nous, on croit connaître, à savoir des sites internet avec des liens, des réseaux et tout. Il y a plein de choses au-dessous. Il y a aussi le web profond, et en particulier quelque chose qui est en train d'être créé par des anarchistes informatiques, on va dire, qui s'appelle le Departure, le nouveau départ. Voilà. Donc, on finit par plus bien savoir ce qui est vrai ou ce qui est virtuel, parce que dès qu'on descend un petit peu dans les couches du web, on devient une sorte d'avatar. Est-ce que l'avatar correspond à la réalité? On ne sait plus trop. Donc Thomas Pynchon, à travers cette enquête, nous parle de malfrats russes revenant de Tchétchénie, de cadres douteux complètement obsédés sexuels de la CIA, de gauchistes passionnés par les théories du complot, et de California qui construisent cette fameuse utopie anarch au fin fond de l'Internet. Et puis arrive le 11 septembre, il y a deux avions qui se fracassent contre les deux tours, symbole d'un monde. On pourrait penser que ce monde va s'écrouler avec les tours et qu'on va repartir à zéro. Pendant quelques instants dans les rues de New York, il y a un moment de silence, l'impression, voilà, peut-être quelque chose de neuf va repartir. Puis on découvre très rapidement que finalement la catastrophe profite à énormément de personnes, à l'État, à la CIA, aux actionnaires, etc. Alors est-ce que du coup, c'était pas prémédité ce truc-là? Est-ce que le web profond n'a pas agi pour que quelque chose arrive? Voilà, on ne sait plus trop. Ça, c'est le thème donc, de ce roman de Thomas Pynchon. Alors, je vous lis un tout petit truc. Maxine là, parle avec son père et il lui dit ton Internet, ce ne sont que des escrocs à la petite semaine. Pas une seule fois je n'ai été tendre avec eux. Le premier criminel de guerre de haut niveau sur lequel je tombe me voilait ébloui, le torture, etc. Voilà le Internet démoli par Thomas Pynchon. Il nous explique qu'on a intérêt à faire gaffe, on ne vit que par ça et que à travers ça, et que peut-être on va finir par disparaître et devenir complètement virtuel. Le deuxième bouquin dont je tiens absolument à vous parler, et là ça va être court, c'est la biographie de monsieur Dennis Hopper. Voilà. Acteur, cinéaste, peintre, écrivain, voilà. Easy Rider. C'est lui qui a écrit ça, mais grand ami de James Dean également. Il a tourné dans La Fureur de Vivre. Donc, c'est sa biographie. C'est magnifique. Il n'y a pas plus dingue que ce mec. Je vous lis simplement la page qui décrit les obsèques de Dennis Hopper. Donc, les fans sont là. Ils sont venus de partout. Il y a des vieux mordus de jazz habillés comme ci, comme ça. Il y a des Indiens, les Indiens que Billy et Captain America de Easy Rider ont rencontrés du tournage du film. Les gros cubes américains pétarades produisant de véritables explosions, de véritables gros cubes destinés à rouler à fond sur la route grande ouverte et pas à rester coincé dans quelques musées cimetières. Ici, pas de rutilante moto moderne. À la traîne, il y a le Hollandais Taos, vieux hippie aux cheveux clairsemés. Je saute quelques lignes. On disait que l'homme là-bas, Denis, aux yeux bleus de coyote et à la canne à bout argenté, pouvait tout trouver, un crâne de bison si vous y mettiez le prix. Il a arrangé l'enterrement de Hopper dans ce cimetière mexicain, hein, était une fois dans l'Ouest, la fin. Tout en longueur, ouah, c'est l'endroit le plus branché où se faire entraîner, fait remarquer un des potes artistes de Hopper. Un record conclut que c'est grâce à Hopper qu'on a pu organiser le cimetière, l'enterrement en territoire mexicain. Dans l'ombre des montagnes de Taos, mystique et souriante, la boîte en pain blanc est descendue en terre. Hopper a droit à un dernier adieu, un dernier discours, lancé par un chopper indien orange. Vroom, 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 vroom. Le rugissement est assourdissant. Jack Nicholson éclate en sanglots. Tout à coup, une indienne Tiwa, connue pour avoir des visions, tombe à genoux et dit avoir vu Dennis partir sur sa Harley customisée de orange et jaune. Il se dirige de plus en plus haut vers une vallée encore plus monumentale. Ça s'appelle Born to be Wild. Ah,
très belle édition Rivage.
Ouais. Et on va terminer ce champ libre
avec Born to be Wild.
Merci aux amis invités. Merci,
merci.
Laurent.
Merci.
Et
merci
à la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Bonne soirée.